Seigneur Jésus, nous t'aimons. Alléluia pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu. Nous allons commencer cette réunion avec quelques cantiques. Vous pouvez chanter avec nous, réjouissez-vous du Seigneur, louez-le, parce que nous sommes de retour dans la maison du Père. C'est le chant numéro 4. Je suis si heureux avec mon cher Père. Perdu près de lui maintenant. D'abord son sourire, puis son étreinte. Sa grâce m'étonne à nouveau. Le refrain. J'étais perdu. Je suis retrouvé. J'étais mort. Maintenant, je vis. Viens et sois joyeux. Réjouissons-nous, retournez chez le Père à nouveau. Deuxième, robe, anneaux, souliers, ma fin s'en alla. À ma position à nouveau, car il m'a vêtu totalement, puis il m'a rétabli à fond. Maintenant et dans la famille à nouveau. Le refrain, j'étais perdu et je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Alléluia. Viens et sois joyeux. Oui, réjouissons-nous car nous sommes retournés chez le Père. Alléluia. Nous allons chanter cela une autre fois. Et si vous maîtrisez ces paroles en parenthèse, vous pouvez les déclarer à l'avance. Je suis si heureux avec mon cher Père, perdu près de lui maintenant. Je rappelle que c'est le chant numéro 4. D'abord son sourire, puis son étreinte. Sa grâce m'étonne à nouveau. Refrain. J'étais perdu et là je suis retrouvé. J'étais mort et maintenant je vis. Viens, viens et sois joyeux. Réjouissons-nous car je suis retourné chez mon Père à nouveau. Alléluia. Numéro 2. Robe, anneaux, souliers, ma fin s'en alla. À ma position à nouveau, car il m'a vêtu totalement, puis il m'a rétabli à fond. Maintenant et dans la famille à nouveau, alléluia. J'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois joyeux. Réjouissons-nous, retournez chez le Père à nouveau. J'étais perdu, je suis retrouvé, j'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois joyeux, réjouissons-nous, retournez chez le Père à nouveau. J'étais perdu et je suis retrouvé. J'étais mort. Maintenant, je vis. Viens et sois joyeux. Réjouissons-nous. Nous sommes retournés chez notre Père à nouveau. Alléluia. Amen. Loué soit le Seigneur, nous sommes revenus dans la maison du Père. Nous faisons partie de sa maison. Maintenant, nous sommes avec lui-même. Nous faisons partie de lui-même. Nous sommes les matériaux. Et nous sommes même une partie de l'édification. Nous édifions ensemble avec lui sa maison. Nous chantons un autre cantique maintenant. Cela se trouve dans le cantique. C'est hymne 839. Seigneur, toi Seigneur le grand potier, créateur que nous louons, tu façonnes, tu construis ton chef d'œuvre, ta maison. Je suis homme fait d'argile, devenu pierre vivante. Oui, je suis ton vase saint. À ton temple, j'appartiens. Le 2 maintenant. Tu voulus nous façonner en eau pure, en vrai joyau. Tu voulus nous transformer en un seul corps, tu unis. Dans l'amour, tu nous bâtis, et ton cœur ainsi comblé par l'épouse est satisfait. Ma voix n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Et pas que des pierres, quand bien même nous brillons, tu dois nous tous édifier. Pour ta gloire, ta maison, toi le Christ riche et glorieux, c'est l'Église que tu veux, pour que puisse rayonner ta lumière et majesté. Ce n'est pas l'individu spirituel et isolé, mais le corps qui peut combler ton désir, ta volonté. À cela, aucun des membres séparés ne peut prétendre. Seuls les membres édifiés pourront ta gloire exprimer. Édifie-moi, restreins-moi, unis-moi à d'autres saints. À ton aise, ajuste-moi pour l'Église, ton dessein. Je ne cherche plus ma gloire, ni mes dons, ni mes victoires. Je ne veux que ta maison, elle est ta satisfaction. Amen. Nous chanterons ce cantique une fois de plus, mais pendant que nous le chantons, c'est vraiment une prière que nous adressons au Seigneur. Alors pendant que nous chantons, sentez-vous libre d'adresser cela comme une prière au Seigneur dans vos cœurs, avant le message.
Toi Seigneur, le grand potier, créateur, nous te louons. Tu façonnes, tu construis ton chef d'œuvre, ta maison. Je suis homme fait d'argile, devenu pierre vivante. Oui, je suis ton vase saint, à ton temple j'appartiens. Bien qu'agile nous soyons, tu voulus nous façonner en eau pure, en vrai joyau. Tu voulus nous transformer en un seul corps tous unis. Dans l'amour, tu nous bâtis. Et ton cœur ainsi comblé par l'épouse est satisfait. Tu ne veux pas que des pierres, quand bien même nous brillons. Tu dois tous nous édifier pour ta gloire, ta maison. Toi le Christ, riche et glorieux, c'est l'Église que tu veux pour que puisse rayonner ta lumière et majesté. Ce n'est pas l'individu spirituel et isolé, mais le corps qui peut combler ton désir, ta volonté. À cela, aucun des membres séparés ne peut prétendre. Seuls les membres édifiés pourront ta gloire exprimer. Édifie-moi, restreins-moi, unis-moi à d'autres saints. À ton aise, ajuste-moi pour l'Église, ton dessein. Je ne cherche plus ma gloire, ni mes dons, ni mes victoires. Je ne veux que ta maison, elle est ta satisfaction. Amen. Oh, ta maison, oh, je donne tout ce que je suis, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Loué soit le Seigneur, nous retournons aux frères. Amen. Loué soit le Seigneur, pour ta maison, je donne tout, afin que tu sois glorifié. Nous allons commencer la réunion le plus tôt possible, et je vous rappelle, dans la mesure du possible, allumez votre caméra. Nous voulons voir votre visage brillant. Ce serait un encouragement pour l'orateur et pour les uns et les autres. Deuxièmement, il serait bien de prendre des notes parce que nous passerons des temps en groupe où vous devez partager. Que ce soit aujourd'hui ou demain, il y aura beaucoup de temps pour partager. Ce message, je le rappelle, c'est le message saint, la séparation et la protection pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu. Nous pouvons prendre 30 secondes pour prier personnellement devant le Seigneur. Et notre frère Daniel va commencer le message. Amen. Alors, 30 secondes de prière, chers saints. Prions ensemble, attendant le début du message. Amen, mes frères et sœurs. Quelle joie de vous revoir. J'aimerais commencer pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Je vais faire un petit récapitulatif. Durant ces 18 mois, quelque chose, cela a été un temps sans précédent que nous vivons. Nous sommes dans un contexte de pandémie mondiale, avec beaucoup d'instabilité sociale et même des catastrophes environnementales. Certaines parties de la terre sont dans la sécheresse, elles brûlent, tandis que d'autres parts, il y a des inondations telles que nous n'avons jamais vu durant tout le millénaire. Voilà le temps que nous parcourons actuellement et nous croyons que nous sommes à la fin de l'âge. Et le Seigneur nous donne une telle parole pendant cette formation des étudiants, parce qu'ils désirent susciter une génération d'étudiants qui se lèveront et qui édifieront, ils bâtiront. Et c'est ce que nous avons vu d'une réunion à l'autre depuis. J'ai été impressionné par les paroles du Seigneur au travers des frères et même à travers vous. Ce matin, c'est merveilleux d'écouter votre portion. Nous avons besoin de votre portion. Nous devons tous nous lever pour bâtir. Ce que nous avons vu dans cette formation d'étudiants, c'est le recouvrement. Le recouvrement dans l'Ancien Testament. Il s'agissait du recouvrement premièrement du pays. Le peuple de Dieu avait été amené en captivité à Babylone. Donc Dieu devait les ramener vers le bon pays, le pays de Canaan. C'est ce pays, c'est là que Dieu avait choisi que sa maison, il avait choisi ce lieu comme lieu de sa demeure. Il ne pouvait pas s'établir en Égypte ni à Babylone. Il n'y a qu'un seul lieu où la maison de Dieu peut être édifiée, c'est à Jérusalem. Nous devons donc être recouvrés pour retourner vers le pays, comme nous avons vu dans ce livre. Ensuite, il y a le recouvrement de la maison. La maison a besoin d'être édifiée. Et un hôtel, une fondation, la maison. Dieu recherche une demeure parmi son peuple. Et ce soir, nous allons voir quelque chose de plus, une autre étape de ce recouvrement qui ne se limite pas à la maison, mais une ville. Il est nécessaire d'avoir une ville, qu'une ville soit bâtie pour servir de protection à la maison, afin de la séparer de toutes les choses extérieures. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons la réalité de ce type qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est quoi la réalité du pays? La réalité du pays est le Christ tout inclusif et vaste. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et bien que nous ne le réalisons pas encore, il est illimité. Et nous prions que de plus en plus nous puissions expérimenter un tel Christ en tant que le pays. Lorsque nous expérimentons Christ comme le bon pays, il y a un résultat, et cela c'est la maison. La maison en fait vient du pays. La demeure de Dieu, qui aujourd'hui est l'Église, c'est nous, la maison de Dieu, la famille de Dieu. Cela est produit à partir de notre réjouissance, notre expérience de Christ. Et en fin de compte, cette église qui a été édifiée, fortifiée, devient le royaume. Le royaume. Le royaume n'est pas quelque chose qui appartient au futur. C'est vrai, dans l'âge à venir, ce sera l'âge du royaume. Mais aujourd'hui déjà, nous devons avoir la réalité dans l'église, parmi le peuple de Dieu, la réalité du royaume. Et cette réalité amènera la manifestation du royaume sur cette terre. C'est cela le recouvrement dans lequel nous nous trouvons. Et nous avons vu d'un message à l'autre comment nous pouvons expérimenter notre présence dans ce recouvrement. Premièrement, nous devons avoir notre esprit réveillé. Nous devons exercer notre esprit. Pendant que nous faisons cela, notre esprit est réveillé et nous commençons à voir la vision de l'édifice de Dieu. Nous sommes sauvés de la passivité. Simplement lorsque la passivité qui nous amène à nous soucier seulement de nos propres choses et nous commençons à nous soucier des choses de Dieu. Voilà ce que nous avons vu dans les deux premiers messages. Et dans les deux messages précédents, nous avons reçu quelques paroles qui nous ont dit que nous devons expérimenter certaines choses. Dans le recouvrement, nous devons expérimenter la purification. Le Seigneur a besoin de nous purifier de tellement de mixtures dans lesquelles nous nous sommes emmêlés, qui sont dans notre être. Il a besoin de nous purifier. Et cette purification n'arrive pas pendant une seule formation, mais il faut beaucoup, beaucoup d'années pendant lesquelles nous venons au Seigneur, nous nous ouvrons à lui, nous venons à sa parole. Nous lui permettons de briller en nous et de nous gagner petit à petit et d'un jour à l'autre. Ce matin, nous avons vu quelque chose de merveilleux concernant l'éducation et la reconstitution. Cela aussi doit faire partie de notre expérience. Nous avons besoin d'une éducation spirituelle. Et pendant que nous entrons dans cette expérience séculaire, nous devons être reconstitués dans notre être et nous avons écouté une parole trop encourageante qui nous disait que nous pouvons toucher la parole, prier sur la parole, lire la parole au quotidien et même parler ces paroles. Voilà comment nous pouvons être reconstitués. Ce soir, les paroles du recouvrement qu'il nous faut écouter et expérimenter, si vous regardez au titre, c'est la séparation et la protection pour le recouvrement de la maison, le recouvrement de l'éducation de la maison de Dieu. Considérons donc notre plan. Considérons ce plan actuellement. Puisse le Seigneur nous donner une réponse sans précédent en ce moment, sans précédent dans notre existence, afin que nous puissions répondre à son appel dans son recouvrement, que nous puissions satisfaire son besoin en tant que ceux-là qui vivons dans le recouvrement actuel de Dieu. Et le premier recouvrement, vous savez, commence ou résulte en Christ. Oui, le premier recouvrement a permis à Christ d'arriver sur la terre. Et le second recouvrement, l'actuel dans lequel nous sommes, nous voulons être, doit finir par amener le second retour de Christ sur la terre. Quel merveilleux moment d'être sur la terre. C'est un merveilleux moment pour être sur la terre. C'est notre désir. Il n'y a pas un moment plus merveilleux que celui-ci pour faire partie de l'avance de Dieu, pour amener un nouvel âge et faire venir le royaume. Voyons donc comment nous pouvons répondre et comment nous pouvons participer à travers ces paroles, séparation et protection. Et j'aimerais ajouter un mot à ce titre, c'est le mot expression. Nous le verrons dans le grand 3. Maintenant, nous changeons de cap. Nous partons d'Esdras pour nous fixer maintenant sur Néhémia. Nous avons écouté Néhémia aujourd'hui. Nous avons parlé de Néhémia. Et nous avons vu que Esdras et Néhémie travaillaient ensemble. Quelle merveilleuse image! Nous avons besoin de toutes les fonctions, de tous les membres du corps. Et j'espère qu'en tant qu'étudiant, vous vous accrocherez au sein des plus âgés, qui sont les Esdras aujourd'hui, qui connaissent la parole de Dieu. Que vous vous attacherez à quelques Néhémies. Nous voyons Néhémie ce soir et nous en parlerons davantage demain. J'espère que vous deviendrez de telles personnes qui s'accrocheraient aux âgés. Oh, je vais m'attacher à un âgé, il était un prophète. Nous avons vu Esdras, le scribe sacerdotal, et nous verrons Néhémie, un modèle merveilleux d'un meneur, un gouverneur, un meneur parmi le peuple de Dieu. Donc, dans le grand 1, le livre de Néhémie est une histoire de la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem comme un recouvrement continu parmi les élus de Dieu pour son témoignage. Et les frères peuvent partager avec nous les versets de Néhémie, chapitre 2, versets 17 et 18. Nous voulons vous montrer ces versets et nous prions que vous vous souviendrez certainement d'eux parce qu'il y a une phrase que je crois est déjà beaucoup apparue sur, se trouve sur les t-shirts que vous portez. Le frère peut partager ce verset de Néhémie chapitre 2 et voyons ensemble ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Néhémie leur a dit, vous voyez le malheureux état où nous nous trouvons, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je le racontais, c'est Néhémie qui parle, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et il dit, disons cela ensemble, levons-nous et bâtissons. Et se fortifier dans cette bonne résolution. Merci frère. Nous pouvons voir la situation. À ce moment-là, le malheureux état dans lequel Jérusalem se trouvait, pas seulement le temple avait besoin d'être rebâti, mais les murailles et les portes avaient été détruites, brûlées par le feu. Il était donc nécessaire de reconstruire la muraille de Jérusalem. La muraille. C'est ce dont nous parlons ce soir. Nous parlons de cette muraille. Il doit y avoir une muraille qui, bien sûr, plusieurs parmi vous, lorsque vous regardez les anciens écrits, les anciennes images médiévales, les villes, il y avait toujours une muraille qui les entourait. En Californie du Sud, il n'y a plus de murailles, n'est-ce pas? En fait, on ne sait pas quelle est la frontière entre une ville et une autre aujourd'hui. Parfois, il y a un signe qui indique peut-être un virage. Vous dites, OK, je suis maintenant dans une nouvelle ville. On ne pouvons pas tellement dire quelle est la différence entre les villes aujourd'hui, mais par le passé, chaque ville était entourée par une muraille et c'est comme ça qu'on pouvait discerner la frontière des villes. Et la muraille servait de séparation et de protection à la ville. Voilà pourquoi nous avons besoin, il était nécessaire au temps de Néhémie, c'est cela le besoin et nous apprendrons demain que Néhémie était un échanson du roi. Il a écouté la situation, et il était très triste. Il a dit, je dois m'en aller, je dois partir. Il était vraiment pugnace, il a même posé la question au roi et même les matériaux, l'armée, l'argent pour retourner et aider à la reconstruction de la muraille à Jérusalem. Quelle merveilleuse personne, ce Néhémie. Voilà donc la situation, le décor dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'ils ont commencé à construire, ils ont parcouru d'une famille à l'autre, c'est une merveilleuse image. Je vous encourage de lire Néhémie chapitre 3 où il est dit, cette autre famille servait près de l'autre famille. Et après la famille de tel, il y avait telle autre famille. Après tel frère dans la maison de tel. Et il y avait les étudiants à Seattle. Et après d'eux, il y avait les sœurs à Belize. Et après ces sœurs, que c'est merveilleux. C'est un peu comme vous, je vois à l'écran, vous êtes tous d'un écran, proches l'un de l'autre sur ces écrans. Le Seigneur veut aujourd'hui cela, afin que nous puissions édifier cette muraille pour servir de séparation et de protection pour sa maison. Continuons donc avec le grand 2 maintenant. Dans le livre de Néhémie, la ville de Jérusalem était une sauvegarde et une protection. Soulignez ces paroles, ces mots, sauvegarde et protection pour la maison de Dieu. Le A dit, la maison de Dieu a besoin que son royaume soit établi comme une sphère pour sauvegarder ses intérêts sur la terre. La construction de la maison de Dieu typifie le recouvrement par Dieu de l'église dégradée. Et la construction de la muraille de la ville de Jérusalem typifie le recouvrement par Dieu de son royaume. Royaume. Alors, une fois de plus, vous devez vous rappeler ces mots. La maison correspond à l'église. La ville, c'est le royaume. Est-ce quelle est la définition d'une ville? La limite d'une ville, c'est la muraille. Alors, l'édification, la construction de la muraille revient à bâtir la muraille, la ville comme une protection, une sauvegarde pour la maison de Dieu. Et si les frères peuvent montrer l'autre diapositive avec les versets dans Matthieu 17, nous sommes au Nouveau Testament, nous voyons ceci dans Matthieu 16 et 18, tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. La maison de Dieu, ça c'est la maison, il s'agit de la maison ici. Et les portes du séjour des morts de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, mon église, c'est quoi? Le royaume. L'église devient le royaume. Et cela se passe pendant cet âge, l'âge présent, cet âge-ci. Le verset dans les points précédents, Romains 14, 17, nous dit que le royaume de Dieu est, c'est-à-dire aujourd'hui, est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Il s'agit de l'Église, c'est la vie d'Église dans laquelle nous nous trouvons. La justice envers nous-mêmes, la paix envers nous-mêmes et les autres, la paix avec les uns et les autres, est remplie de joie dans le Saint-Esprit. J'espère que cela sera la caractéristique de votre vie d'Église. Cette Église est le royaume aujourd'hui. Nous pouvons voir dans ces deux points qui sont liés les uns avec les autres. Merci, frère. Ok, allons voir le C maintenant. La cité de Dieu est l'Église agrandie, fortifiée et édifiée comme centre dirigeant du règne de Dieu dans son royaume. Finalement, dans le plan de Dieu, la maison de Dieu devient la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En tant que demeure éternelle de Dieu et centre dirigeant de son royaume éternel. Alors, une fois de plus, la Bible est très claire là-dessus, que ce soit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les évangiles, les paroles du Seigneur, jusqu'au parachèvement dans Apocalypse. Une fois de plus, nous vous montrons les versets d'Apocalypse 2, Apocalypse 21, 2 et 3. Qu'est-ce que nous voyons? Je vis la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville, elle est édifiée, elle est construite. Mais qu'est-ce que cette cité? Dans le verset 3, il est dit, voilà le tabernacle de Dieu. C'est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. Alors, la maison est devenue la ville. Et vous pouvez continuer dans cet Apocalypse 21 en lisant jusqu'au verset 21 où il est dit, il n'y a pas de temple dans cette ville, mais le Seigneur, Dieu et l'agneau sont le temple. C'est-à-dire, le temple a été élargi, a grandi pour devenir la ville. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? L'Église a été agrandie, a été fortifiée, édifiée, au point qu'elle est devenue, elle deviendra dans l'âge à venir, le royaume deviendra, l'Église, pardon, deviendra une ville, la Nouvelle Jérusalem. Et nous verrons cela bientôt. Il s'agit d'une ville, une cité sainte. On n'avait jamais rien vu de pareil. Désolé, Paris, Londres, Sao Paulo, Mexico City, Toronto, New York, il n'y a jamais eu rien de pareil en tant que ville. Il s'agit ici d'une cité sainte, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Merci frère pour ce verset. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus au sujet de la Nouvelle Jérusalem, parce que nous pourrions penser que peut-être, c'est peut-être pour le futur. Est-ce le futur? En fait, individuellement, nous devons être une miniature de la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Et en tant qu'Église, la vie d'Église dans laquelle nous nous trouvons doit également être une miniature de la Nouvelle Jérusalem. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose lié au futur simplement. Nous sommes en train de devenir la Nouvelle Jérusalem, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous devons voir, avoir les caractéristiques, les expériences liées à la Nouvelle Jérusalem. Il doit y avoir une rivière d'eau vive qui coule, comme Jean 7 le dit, depuis notre être intérieur. Nous devons manger l'arbre de vie au quotidien. Nous devons marcher sur la rue en or. Et il doit avoir une muraille, grande et haute muraille avec nous. Alors tous ces aspects de la Nouvelle Jérusalem doivent faire partie de notre expérience individuellement et corporativement dans notre vie d'Église. Alors nous touchons au dernier point de ce grand 1, grand 2, pardon. Lorsque nous nous réjouissons de Christ comme notre vie, nous verrons cela, Christ comme notre vie, nous avons l'Église comme la maison de Dieu. Si nous allons plus loin, et réalisons son autorité en tant que tête, la maison sera agrandie pour devenir la cité, le royaume de Dieu. Alors j'ai un fardeau ici pour, en ce qui vous concerne. Nous aimons nous réjouir de Christ en tant que notre vie, n'est-ce pas? Je viens de parler de la rivière de vie, l'arbre de vie. Nous nous réjouissons de lui chaque jour. Nous nous réjouissons en l'invoquant, en chantant, en lisant sa parole. Nous nous réjouissons en... Il est notre vie, Christ est vie, n'est-ce pas? Et nous devons nous réjouir de lui en tant que vie. Voilà comment Dieu peut obtenir son Église en tant que maison de Dieu. Mais rappelez-vous dans 1 Timothée 3:15, il est dit, la maison du Dieu vivant. Et ensuite il dit, ici nous avons l'expression vie, la maison du Dieu vivant. Être dans la maison, dans l'Église en tant que maison de Dieu, nous devons avoir la vie de Dieu. Parce que la maison de Dieu est sa maisonnée, sa famille. Comment entrons-nous dans une famille? Par la naissance. Vous devez avoir la vie pour être un membre de la famille. Et c'est comme cela que nous devenons membres de l'Église. Ce n'est pas en signant une carte de membre ou en participant à un examen. Non, nous ne sommes pas nés dans notre vie humaine dans une Église. Mais nous naissons dans l'Église de manière divine. C'est comme cela que nous entrons dans l'Église, la maison du Dieu vivant. Nous devons avoir la vie de Dieu pour entrer dans l'Église du Dieu vivant. Mais il y a également une étape supplémentaire. J'espère que nous l'expérimenterons tous et j'aimerais que vous souligniez cela. Nous voulons que vous avancez plus pour réaliser l'autorité de Christ en tant que tête. Qu'est-ce que cela veut signifier? Cela veut dire que chacun de nous doit voir que Christ est notre tête. Et avez-vous expérimenté Christ en tant que votre tête? Est-il votre tête? Est-il celui-là qui vous conduit? Lui permettez-vous de prendre les décisions? Pendant ces années, vous avez beaucoup de décisions capitales à prendre qui vont établir votre parcours pendant le reste de votre vie. Où est-ce que je vais aller à l'école? Qu'est-ce que j'étudie? Quel emploi dois-je prendre? Qui dois-je épouser? Où vivrai-je? Vivrai-je dans l'église, dans la vie d'église? Ou est-ce que je retournerai dans le monde? Alors, il y a beaucoup de décisions. Et j'espère que vous vous ouvrirez au Seigneur pour qu'il soit votre tête. Et je me rappelais cette semaine quand je préparais ce message dans le livre des Juges 17:6. C'est un verset très triste, mais je pense qu'il est approprié, il est opportun. Ce verset dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait selon ce qui était bon à ses yeux. Pouvez-vous l'imaginer? Aucun roi. Chacun agissait selon ses propres concepts, ce qui est propre à ses yeux. Et je pense que cela décrit la situation qui règne dans le monde aujourd'hui. Et même la situation parmi beaucoup de croyants. C'est vraiment triste. Il n'y a pas de roi. Qui est votre roi? Qui est votre tête? Qui est votre Seigneur? Qui est votre roi? Puisse le Seigneur briller sur nous dans toutes ses décisions, afin que nous puissions venir à lui, que nous puissions amener toutes ces choses à lui. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Seigneur, je vais aller ici, mais toi, où veux-tu que j'aille? Seigneur, quel serait le meilleur endroit où je puisse aller pour participer à l'édification de ta maison? Où voudrais-tu me conduire, Seigneur? Voulez-vous vous ouvrir à lui? Seigneur, quelle filière dois-je prendre pour mon futur afin qu'elle puisse te servir, afin que je puisse avoir un emploi, certainement pour soutenir ma famille, mais également pour soutenir l'Église, soutenir ton avance, afin que j'aie du temps pour être dans la vie d'Église. Il ne s'agit pas de la quantité d'argent que nous pouvons faire ou des possessions. Toutes ces choses seront vanité. Vous pourrez ne pas vous en rendre compte aujourd'hui. Vous vous dites, ah non, si j'avais telle chose, si j'avais ceci, si je parvenais à faire telle chose, je serais heureux. Posez la question à Salomon. Il a déjà partagé son expérience avec nous dans Ecclésiaste. Il avait toutes ces choses, la sagesse, les richesses. Et il a dit à la fin, c'est vanité de vanité. Et c'est la poursuite du vent. La vie sous le soleil ne signifie rien sans Dieu. Sans Dieu, elle est vanité. Peu importe les millions que vous possédez. La destination que vous prenez, les lieux que vous visitez dans vos voyages, même si vous allez dans l'espace, cela ne compte pas. Vous devez être dans l'église pour l'église et le royaume. J'espère que vous prendrez cela en considération. Puisse le Seigneur être notre tête, notre roi, notre Seigneur qui nous dirige, nous conduise. Quelle joie de pouvoir lui permettre d'être notre roi. Si nous le faisons, il prendra soin de tous nos besoins. Nous le cherchons premièrement, comme nous l'avons vu dans le message de Dieu. Il a dit toutes ces choses nous seront données parce qu'il est au contrôle. Vous lui donnez votre être, votre futur, et il prendra soin de tous vos besoins. Je pense que les frères ici ont partagé au cours de cette formation. Plusieurs ont témoigné qu'ils étaient comme vous il y a 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage qu'il a fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Il a pris soin de nos emplois, de nos filières. Il nous a donné la meilleure femme, les enfants et tous ceux dont nous avons besoin. Mais c'est pour son dessein et non pas pour nous simplement. Alors, venons-en maintenant au fardeau principal dans le grand 3. Nous voulons voir, particulièrement dans le livre de Apocalypse, cette description de la muraille. Le grand 3 nous dit, la grande et haute muraille de la cité sainte sert à nous séparer pour Dieu, à assurer la protection des intérêts de Dieu et aussi à garantir son expression. J'espère que vous pourrez souligner, encercler ces trois mots, la séparer, assurer la protection, garantir l'expression. Oui, les points dessous, au-dessous de ces points, nous permettront de mieux comprendre ces mots. J'aimerais vous dire ceci, la grande et haute muraille, la muraille de la Nouvelle Jérusalem, est comment? Nous sommes les petits de Nouvelle Jérusalem, et dans l'église est la miniature de cette Nouvelle Jérusalem. Les murs de cette ville doivent être grands et hautes afin de nous protéger de plusieurs choses qui sont à l'extérieur. Et j'aimerais lire, je parcourais Apocalypse 21 et 22, qui sont les deux dernières paroles de la Bible. Et ces deux chapitres parlent de la Nouvelle Jérusalem de manière très détaillée. C'est très encourageant. Je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Ce qui est intéressant, nous trouvons dans Apocalypse 21, verset 27, il est dit, « Il n'y entrera rien de commun, ni personne qui commet une abomination et profère un mensonge, mais seulement, ça c'est dans la ville, donc il n'y entrera rien de commun. Ces choses sont extérieures, ce sont les choses que la muraille exclut. Rien de commun, ni personne qui commet une abomination, qui profère un mensonge. Ceux-là ne pourront aucunement entrer dans cette ville, dans ce royaume de Dieu. Et dans Apocalypse 22, 15, à nouveau, vous pouvez noter ce verset, il est dit, dehors, donc ici, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem en tant que la ville. Nous allons le lire. Les idéaux sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres. Et écoutez, quiconque aime et fait le mensonge. Ces choses également sont à l'extérieur. Bien sûr, nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Si nous lisons dans Philippiens, les chiens se réfèrent aux religieux. Et même dans les évangiles, le Seigneur dit, prenez attention, prenez garde aux chiens. Ne partagez pas vos choses précieuses avec les chiens, c'est-à-dire les religieux qui sont impurs. C'est ce que c'est qu'un chien. Ce n'est pas en réalité un animal au sens propre, c'est une personne religieuse qui est impure. Alors, de telles personnes ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Être religieux ne te permet pas d'entrer dans la cité. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Et je partage ces choses avec vous. Voilà les choses que la muraille exclut. Considérez donc ces paroles, ces choses qui sont exclues de la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette grande et haute muraille. J'aimerais partager quelques versets au sujet de la Nouvelle Jérusalem, de cette muraille. Dans ce verset, dans 21:12a, nous parlons de la grande et haute muraille qui a 12 portes. 21:18a, sa muraille était construite en jaspe. Jaspe, c'est un matériel, une pierre précieuse. Nous verrons comment nous pouvons devenir une pierre précieuse. Et ensuite, Apocalypse 4, 3, celui qui était assis, il parle ici du trône de Dieu. Jean a été enlevé vers le trône de Dieu en esprit. Et il dit, celui qui était assis avait un aspect semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, celui-là qui était sur le trône de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, était semblable à une pierre de jaspe. Et la muraille était aussi construite en jaspe. Nous devenons comme Dieu dans l'expression, afin de devenir également des pierres de jaspe. Et il est dit au sujet de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21:11, je n'ai pas le verset, il dit que la gloire, elle avait la gloire de Dieu, cette ville. Sa lumière était semblable à la pierre la plus précieuse, le jaspe. Alors, cette muraille est grande et haute. Elle est faite en jaspe. Elle est construite. J'espère que vous pouvez voir ces mots. Retournons au plan maintenant et voyons quelques détails au sujet de cette muraille. Ah, la fonction ici, la fonction de la muraille de la ville est de séparer, de sanctifier la ville pour Dieu, faisant ainsi d'elle la ville sainte. La ville sainte. Voilà la fonction, séparer. Chers saints, chers jeunes, nous devons être la cité sainte. Voilà le désir de Dieu pour nous. Et j'aimerais partager avec vous quelques versets dans 1 Pierre 1, 16, 15 et 16. Vous pouvez afficher le verset. Voilà le désir de Dieu en ce qui nous concerne. Si vous voulez me joindre, lisons cela ensemble. Mais selon le saint qui vous a appelé, vous aussi soyez saints dans toute votre manière de vivre. Et j'aime le verset 16, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce sont des paroles, des versets merveilleux et j'espère que vous vous en souviendrez. Rappelez-vous, dans Éphésiens 1, 4, nous avons été choisis pour être saints. Ici, dans 1 Pierre 1, 15, il nous a appelés. Le Saint nous a appelés. Nous avons été choisis pour être saints, afin, c'est-à-dire être comme Dieu dans la vie, la nature de Dieu même. Il est saint, il est unique, il est distinct, séparé de toute autre chose dans ce monde. Toute autre chose est commune, mais Dieu est distinct, séparé, unique. Seul Dieu est Dieu. Et il nous a choisis pour être pareil à lui, ayant la même vie, dans la même nature. Il nous a appelés dans le temps. Le Saint nous a appelés et il nous demande d'être saints dans toute notre manière de vivre. J'aimerais vous poser la question à vous, les jeunes. Êtes-vous saints dans toute votre manière de vivre? Votre vêtement, votre habillement, vos paroles, les posts que vous faites sur Internet, les sites que vous visitez, les médias sociaux, la musique que vous écoutez et beaucoup d'autres choses. Le Seigneur, le désir du Seigneur est que nous soyons un peuple saint. Il veut que nous soyons saints dans toute notre manière de vivre. Voilà le désir de Dieu, d'avoir cette cité sainte. Et il dit au verset 16. Vous serez saints. Ne prenez pas cela comme une exigence, mais prenez également comme une promesse. C'est comme cela que je la prends. Je prends cela. Vous serez saints. Dites-vous-même à vous-même cela. Vous serez saints. Tu seras saint. C'est le Seigneur. C'est la promesse du Seigneur. Parce que je suis saint. Lorsque nous sommes sauvés, celui qui est saint vient en nous. Nous le recevons. Nous recevons le Saint-Esprit. Chaque jour, lorsque nous lisons la Sainte Parole, et avec qui passons-nous du temps? J'espère que de plus en plus nous serons avec les frères et les sœurs, avec la Bible, que la Bible appelle les saints, le peuple saint. Nous serons avec le peuple saint. Nous devons être avec le peuple saint dans notre club chrétien, partout où nous nous trouvons, au campus. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons une parole sainte qui nous lave. Et par elle, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le lavage de l'eau dans la parole. Elle nous rend saints. Nous devons lire la Bible, comme nous l'avons écouté ce matin, non pas simplement pour être constitués. Nous devons être constitués, mais nous deviendrons également saints. Nous deviendrons la sainte cité. Et j'espère que vous prendrez ce verset, non pas seulement comme une exigence, mais aussi comme une promesse. Vous serez saints, parce que je suis saint. Le saint est en nous. Il gagnera, il triomphera, il nous gagnera, ça pourra prendre du temps, mais il nous gagnera. Nous serons tous là-bas dans cette cité sainte, la Nouvelle-Jérusalem. La question est, y serez-vous plus tôt ou plus tard? Coopérerez-vous avec lui aujourd'hui ou choisirez-vous de passer par la période de rattrapage? J'espère que nous choisirons tous aujourd'hui de nous donner au Seigneur afin d'être rendus saints. Merci frère. Alors, il y a beaucoup de choses saintes qui nous rendent saints. Nous devons être avec les saints, les frères saints, les saintes sœurs, être dans un groupe de maisons saintes, Vous êtes peut-être en première année, mais vous devez être connecté sur votre campus avec un groupe de maisons saintes. Je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais c'est comme ça que je les appelle. Les gens saints, vous devez entrer dans une chambre sainte, avoir un réfrigérateur saint, être édifié avec des personnes saintes. Voilà comment vous pouvez être saint. Mais si vous êtes avec les autres qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas saints, bien sûr, tu ne pourras pas être sanctifié toi-même. Amenez vos amis dans la sainte maison et faites qu'ils soient saints comme vous. Autrement, vous serez emportés par eux. Et vous, vous qui avez été choisis pour être saints, qui avez été appelés pour être saints, ils vous emporteront loin. Et vous, pendant un temps, vous ne serez plus saints comme eux. Ne permettez pas qu'ils fassent cela. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette muraille. Non seulement dans l'Ancien Testament, cette muraille a été construite, mais dans le Nouveau Testament, nous-mêmes, nous venons la muraille. Nous devons être transformés et nous verrons cela dans le point suivant pour devenir la muraille. Et j'aimerais dire, donner une parole pour équilibrer cela. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes. La Nouvelle Jérusalem possède 12 portes. Non seulement vous devez devenir une muraille contre toutes les choses extérieures, mais il doit y avoir une porte en vous pour permettre à vos amis d'entrer. Ces personnes qui ne sont pas saintes. Parce qu'il y a encore du temps, nous sommes encore dans l'âge de la grâce, l'âge de l'Église, l'âge de l'Évangile. Amenez-les à l'intérieur. Prenez-les dans votre cœur. Priez pour eux dans votre petit groupe. Et ils seront amenés eux aussi dans la cité sainte avant la fin de cet âge. Oh, quelle joie! Ok, ne soyons pas distraits. Passez porte. Retournons à la muraille. Dans le petit 1, la muraille de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem est construite en jaspe et les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toute espèce de pierres précieuses. Voyons maintenant comment devenons-nous ces murs, cette muraille, ce jaspe. Alors, petit A, grâce à notre croissance dans la vie divine en Christ, la pierre précieuse, nous sommes transformés en des pierres précieuses. N'est-ce pas? J'aimerais vous donner un petit processus ici. Premièrement, vous et moi, nous avons chanté un cantique. Nous avons été faits d'argile. Nous avons été faits d'argile, de la poussière du sol. Mais lorsque Christ est venu en nous à travers l'Évangile, il est venu en tant qu'un semeur. Et il s'est semé dans notre cœur, dans l'humanité, l'argile. Il a semé la semence de vie en nous. Et nous avons reçu cette semence. Maintenant, dans les épîtres du Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Cette semence qui est dans tous les croyants, cette semence de vie grandit. En fait, dans le livre des Corinthiens, il est dit, nous sommes le champ cultivé de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Christ grandit en nous. Mais après, il dit, nous sommes l'édifice de Dieu. Comment est-ce que le champ devient l'édifice? C'est la transformation. Plus le Seigneur, en tant que vie, grandit en nous, cette vie amène la transformation dans la vie. Une transformation. La transformation est un changement organique, métabolique. Un changement organique et métabolique. Voilà ce qui se produit chaque fois que nous mangeons une nourriture. Lorsque nous mangeons, les nouveaux éléments entrent dans notre être et viennent en nous. Elles sont digérées, réduites en morceaux, transformées et allées dans notre cellule. Ensuite, elles remplacent les anciens éléments et ces anciens éléments sont expulsés à l'extérieur. Voilà pourquoi il est important que nous lisions la parole dans une attitude de prière, parce que c'est comme ça que ce processus se produit. C'est de cette manière que nous sommes reconstitués. Nous entendons la parole. La nuit dernière, nous avons parlé de la purification. Ce matin, nous avons entendu parler de la reconstitution. Ce soir, nous entendons parler de la transformation, la sanctification. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui avec vous et avec moi. En passant du temps avec lui, en passant du temps dans sa parole, la parole de Dieu, ce processus prend lieu. Alors il y a la semence de vie qui grandit, et nous transforme en un matériau d'édification. Nous passons de la plante, de la vie des plantes à la vie minérale, quelque chose qui est de plus en plus solide. Nous ne pouvons pas bâtir un terrain, une muraille, pardon, avec les plantes, n'est-ce pas? Les plantes sont bonnes. J'aime ce verset. Mais j'aime les roses, mais nous n'avons jamais vu un mur fait de roses, n'est-ce pas? Cela ne peut pas protéger de l'ennemi. Mais le mur de jaspe, de pierres précieuses, non, ce mur, cette muraille peut protéger contre l'ennemi. C'est quelque chose de solide et c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans chacun de nous. Dans Apocalypse, nous avons la récolte, la moisson. La vie est semée en nous, elle grandit en nous, elle nous transforme. Et finalement, dans Apocalypse, il y a la moisson, c'est la cité. La cité qui est produite avec tous les matériaux précieux. Nous parlerons des pierres précieuses, mais il y a également l'or et il y a également les perles. Nous deviendrons une partie de cette nouvelle Jérusalem en expérimentant toutes ces choses, dans tous ces merveilleux aspects. J'aimerais vous montrer dans 1 Pierre ces mêmes paroles, ce qui se trouve dans ce verset. Nous allons prendre cela dans la diapositive. Il est dit « pierre vivante ». Il y a la vie, il y a la transformation. Nous venons à lui. Nous venons à lui. Une pierre vivante. Et il n'est pas simplement une pierre vivante, mais il est précieux. Notre Christ est précieux. Pour Dieu, il est choisi et précieux. Et vous savez quoi, jeunes gens? Il est rejeté par les hommes. Si vous prenez cette voie du recouvrement du Seigneur, vous n'aurez aucune place dans ce monde. Vous serez rejeté par les hommes. Voulez-vous être accepté par les autres, être reçu par les autres, être populaire parmi les hommes? Alors, vous ne pourrez pas être une partie de la muraille pour protéger les choses, pour rejeter, pour exclure les choses qui ne sont pas saines, qui sont impures. Nous devons voir le chemin que le Seigneur nous a montré en tant que notre modèle. Pour Dieu, il est choisi, il est précieux. Et vous également, vous êtes choisis et vous devenez précieux. Vous également, en tant que pierre vivante, nous avons été régénérés pour être une maison spirituelle. Nous sommes en train d'être transformés de cette façon pour être une maison spirituelle. Comment? En venant à lui. Chaque matin, venez à lui tous les matins. Voilà le moyen pour être transformé. Et non seulement il veut des pierres vivantes. Il ne veut pas des pierres vivantes dispersées, mais il veut que ces pierres soient édifiées pour devenir une maison spirituelle. Cela est mon dernier fardeau pour vous. Avec qui êtes-vous édifié? Le B maintenant. Les pierres précieuses indiquent la transformation. Plus nous sommes transformés, plus nous sommes séparés. Voilà comment nous sommes séparés. Nous devons être transformés. N'essayez pas d'éviter de faire certaines choses. Ce n'est pas comme cela que vous êtes séparés. Vous pouvez vous débarrasser de tant de choses, mais vous pourrez repenser à elles dans peu de semaines. Mais le moyen le plus sûr pour être séparé, c'est d'être transformé. C'est tout. Cela nécessite du temps. Ce n'est pas quelque chose de rapide. Tout ce qui est rapide, qui se fait à la hâte, ne peut pas durer. Les choses précieuses prennent du temps. Alors vous devez passer du temps avec le Seigneur. Vous devez être dans la parole. Vous devez être avec le peuple saint, le peuple de Dieu qui est saint. Voilà comment vous serez transformé pour devenir quelque chose de précieux. Et pendant que vous êtes transformé, vous êtes séparé. Je n'ai pas de temps pour élaborer là-dessus. J'aurais souhaité donner 2 versets dans le Nouveau Testament. Ne soyez pas conformés à cette tâche, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, votre intelligence est renouvelée. Lorsque vous êtes avec vos professeurs d'université, votre intelligence est plutôt conformée, modélée selon ces tâches. Mais pendant que vous passez du temps dans la parole, vous permettez au Seigneur de renouveler votre intelligence. Dites, Seigneur, je veux que mon intelligence soit marinée dans la parole de Dieu. Être imbibé. Entretenez-vous de la parole. Ne lisez pas simplement un verset le soir pour l'oublier par après. Par la suite, écrivez-le, mettez-le sur votre téléphone, méditez sur cela, entretenez-vous de ces paroles, consommez-la, considérez ces paroles dans votre... voilà comment votre intelligence pourra être renouvelée. C'est comme ça. Ouvrez-vous à lui et permettez qu'il infuse sa gloire en vous. Voilà comment vous êtes transformés. Nous abordons la fin. Le 2 dit, pendant que l'œuvre de transformation de l'esprit se poursuit, nous, les pierres vivantes, les pierres précieuses transformées, sont en train d'être transformées ensemble pour former une muraille complète. J'espère que dans chaque église locale, dans chaque club partout où vous vous trouvez, où le Seigneur vous a mis dans ces lieux, il vous a mis tout près de celui qu'il faut. N'allez pas ailleurs. Vous dites, oh, je veux être édifié avec tel autre frère qui est loin. Non, il vous a mis au bon endroit. Dites simplement Amen. Édifie-moi ici, édifie-moi maintenant. Voilà l'exigence la plus élevée. Nous avons vu cela au message de Dieu, que nous soyons édifiés avec les autres. Avez-vous grandi vraiment dans le Seigneur? Avez-vous été transformé? Pour le vérifier, il suffit de voir si vous avez été édifié avec les autres. Avec qui êtes-vous édifié? Dans le tabernacle, chacune des barres mesurait une distance d'une coudée et demie. Cela veut dire qu'il avait besoin d'une autre barre pour être rendu complète. Personne parmi nous n'est complet. Je ne suis pas complet. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de quelques-uns et même de beaucoup. Certains en haut, en bas, autour de moi, afin que nous soyons édifiés pour devenir ce merveilleux mur de jaspe. Alors soyez édifiés avec les autres. Ne vous éloignez pas des autres. Le Seigneur vous a mis au bon endroit. Ouvrez-vous, communiez avec ceux qui sont dans votre localité, ceux qui sont autour de vous. Maintenant, les deux fonctions, j'aimerais vous les donner, c'est que mon temps est déjà épuisé. La fonction de la muraille de la ville est de protéger les intérêts des richesses de la divinité de Dieu sur la terre, ainsi que les réalisations du parachèvement de Christ. La référence est Jean 17, 17. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que la vérité, jeunes gens? Beaucoup d'universités et d'instituts, dans leur portail, ont les mots vérité, qu'il y ait de la lumière, que la lumière brille. Au début du système universitaire dans ce pays, il y avait cette devise. Et c'était le désir de ces gens de former des gens. Considérez la devise d'avant. Aujourd'hui, c'est quoi? Veritas, c'est-à-dire vérité. Mais avant, c'était vérité, veritas, et ensuite, il y avait Christ et l'Église. Waouh! Nous devons tous aller à Harvard. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné cela? Aujourd'hui, c'est triste de le dire, les universités ne sont pas le lieu où nous trouvons la vérité ou la lumière, où les gens sont élevés pour connaître Dieu et sa parole. Mais ce sont plus les lieux des ténèbres, plutôt des lieux de ténèbres, du mensonge, de la mort. Alors, vous devez être sur vos gardes, vous devez faire attention, connaître la vérité, vous devez faire attention aux cours que vous faites. C'est vrai, vous avez des devoirs, vous devez lire tel livre, écrire, rédiger tel examen, mais ne permettez pas que cela gagne vos cœurs, n'acceptez pas ces pensées. Vous devez être une muraille, faire partie de la muraille pour protéger les richesses de la divinité de Dieu. C'est cela, c'est-à-dire la vérité de Dieu. Nous croyons en Dieu. En un Dieu qui a créé l'homme et la femme, mâle et femelle. C'est à ce Dieu que nous croyons, que nous connaissons et que nous expérimentons. Il est notre Dieu et il est devenu un homme. Jésus-Christ, il est passé par un processus merveilleux. Aujourd'hui, il est l'Esprit qui donne la vie dans notre esprit. Ces vérités, mes chers frères et sœurs, ces vérités, nous devons nous attacher à elles et les protéger. Comment est-ce que nous les protégeons? Nous devons entrer en elles, les lire, les expérimenter. Et les parler. Voilà comment protéger la vérité. Mais finalement, cette merveilleuse muraille, la fonction de la muraille est d'exprimer Dieu. J'aimerais vous partager Apocalypse 4, 3. Celui qui est sur le trône a l'aspect du jaspe. Et la muraille est en jaspe. Nous devenons nous-mêmes le jaspe. Nous devenons Dieu dans l'expression. Alors, j'espère que vous, sur une base quotidienne, vous prendrez du temps pour être avec le Seigneur, pour vous réjouir juste de la Sainte Parole, toucher le Saint-Esprit et devenir être avec le peuple saint de Dieu. Que le Seigneur mène cela à bien, cette parole, dans chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.